Chapitre 15. Fin. Ils arrivèrent à Villeneuve dans l'après-midi, toujours gais et joyeux. Après le repas, le meunier s'assit dans un fauteuil, fuma une pipe, puis fit un somme. Les fiancés allèrent se promener, bras dessus, bras dessous, sur les bords du lac, aux eaux profondes, couleur de saphir et d'émeraude. Ils s'assirent sur un rocher ombragé de saules et contemplèrent le sombre château de Chillon, dont les tours massives se reflétaient dans le lac. Ils apercevaient aussi l'îlot aux trois acacias. « Que l'on doit y être bien !» dit Babette, qui ressentit de nouveau l'ardent désir qu'elle avait eu déjà d'aller s'asseoir sous ces arbres. Ce souhait pouvait être accompli à l'instant. Une barque était attachée à un tronc d'arbre par une corde facile à dénouer. Ils cherchèrent le propriétaire pour lui demander la permission de prendre la barque. Ils ne trouvèrent personne. Ils s'embarquèrent néanmoins. Rudy savait très bien manier les rames. Il attaqua l'eau bravement. L'élément mobile cède au moindre effort et rien pourtant ne résiste à sa formidable puissance. Il offre, pour ainsi dire, complaisamment son dos pour vous porter et sa gueule est toujours béante, prête à vous dévorer. Il sourit, il semble la douceur même, et les ravages, les désastres qu'il cause, sont les plus terribles. En quelques minutes, les heureux fiancés atteignirent l'îlot et y descendirent. Ils étaient d'une folle gaieté et se mirent à danser et sauter d'allégresse. Rudy fit faire trois fois à Babette le tour de l'étroit espace, puis ils s'assirent sur un banc sous les acacias. Ils se regardaient la main dans la main. Autour d'eux, la nature resplendissait de l'éclat du soleil couchant. Les forêts de sapins sur la montagne prenaient une teinte lilas, couleur de fleurs de bruyère. Les rochers reluisaient comme du métal en fusion et paraissaient transparents. Les nuages du ciel ressemblaient à un vaste incendie. Le lac pouvait être comparé à une immense feuille de rose. Peu à peu, l'ombre bleuâtre descendit et atteignit le bas des montagnes neigeuses de la Savoie, mais leurs cimes étaient toujours empourprées. On se serait cru au premier jour du monde lorsque les montagnes sortaient du sein de la terre comme une lave rougie. C'était un spectacle comme Rudy et Babette ne se souvenaient pas d'en avoir jamais vu de si beau. La dent du midi, couverte de neige, jetait plus d'éclat que la pleine lune lorsqu'elle émerge de l'horizon. « Que de splendeur et que de félicité !» disaient les deux amants. « Sur cette terre, dit Rudy, je n'ai plus rien à désirer. Une heure comme celle-ci vaut toute une vie. J'ai déjà éprouvé bien des bonheurs et souvent j'ai cru que c'était tout, que j'avais épuisé la coupe. » Mais le jour s'achevait et il en recommençait un autre qui était encore plus beau. Le Seigneur est vraiment d'une bonté infinie. « Mon cœur déborde de reconnaissance, » dit Babette. « La terre ne saurait m'offrir rien au-delà de ce que j'éprouve, » reprit Rudy. Des montagnes de la Savoie, des montagnes de Suisse, les cloches sonnaient la prière du soir. Vers l'ouest, on voyait les sommets du Jura briller dans une mer d'or. « Que Dieu te donne ce qu'il y a de meilleur et de plus souhaitable au monde !» dit Babette, les yeux humides de tendresse. « C'est ce qu'il fera, » dit Rudy. « Demain je t'aurai, demain tu seras entièrement à moi, ma délicieuse petite femme !»«
La barque, la barque !» s'écria Babette.
Le bateau s'était détaché par le mouvement des vagues et s'éloignait de l'îlot. « Je vais le rattraper, » dit Rudy. Et, jetant son habit, ses bottes, il sauta dans l'eau et, habile nageur, il avançait rapidement vers la barque. Il arriva dans le courant des eaux grises, bleuâtres, froides, que le Rhône apporte des glaciers. Il y jeta un regard, un seul coup d'œil. Il lui sembla qu'il voyait rouler au fond un brillant anneau d'or. Il pensa à son anneau de fiançailles qu'il avait perdu. Mais cet anneau devint de plus en plus grand, de plus en plus large. Il forma en un instant un large cercle lumineux. Au milieu de ce cercle s'ouvrit un vaste glacier. De profonds précipices étaient béants. Des milliers de gouttes d'eau faisaient, en tombant, une musique sinistre, un glas funèbre. Les murs de cristal réfléchissaient des flammes blanches et bleues. Dans l'espace d'une seconde, Rudy vit un spectacle qu'il faudrait bien des paroles pour décrire.
Là se trouvait une foule de jeunes chasseurs, de jeunes filles, d'hommes et de femmes qui étaient tombés dans les crevasses des glaciers et y avaient péri. Ils paraissaient vivants, avaient les yeux ouverts et souriaient à Rudy. Plus au fond, on découvrait une ville que le lac avait engloutie dans ses eaux. Le torrent des montagnes agitait les cloches des églises et faisait résonner les orgues. Les habitants étaient agenouillés dans le sanctuaire où ils s'étaient réfugiés lorsqu'arriva la catastrophe. Enfin, tout en bas, était assise la Vierge des Glaces. Elle se leva à la vue de Rudy. Elle embrassa ses pieds et les toucha de ses lèvres. Le chasseur reçut une commotion électrique, puis un froid mortel saisit ses membres et les engourdit. « À moi ! À moi ! Tu es à moi !» Ce cri de triomphe retentit autour de lui. « Je t'ai embrassé lorsque tu étais enfant, je t'ai donné alors un baiser sur la bouche. Aujourd'hui, je t'en donne un sur le talon. Tu es à moi, totalement à moi !» Et Rudy disparut au milieu de l'onde bleue et claire. Sur la terre, partout, le silence se fit. Les tintements des cloches du soir cessèrent. Les nuages perdirent leurs couleurs éclatantes. « Tu es à moi !» Ces mots retentissaient au fond des eaux. Ils retentissaient également dans le ciel. La voix remplissait l'infini. N'est-ce pas un bonheur que de passer ainsi de l'amour sur terre aux pures joies du ciel comme d'un seul bond ? Le baiser glacé de la mort avait anéanti une enveloppe périssable, un être immortel en sortie, prêt à la vie véritable qui l'attendait. La dissonance de la mort se résolvait en une harmonie céleste. Appelez-vous cela une histoire triste ? Pauvre Babette, oui, pour elle, ce furent des moments de cruelle angoisse. La barque s'éloignait de plus en plus. Personne à terre ne savait que les fiancés fussent allés sur la petite île. L'obscurité augmenta, la nuit vint. Seule, désolée, gémissante, Babette se tordait dans le désespoir. Un éclair brilla au-dessus du Jura. Un autre partit des montagnes de la Savoie. Bientôt, on ne les compta plus, tant ils se succédaient rapidement. Les roulements du tonnerre duraient des minutes sans interruption. La foudre, avec ses zigzags éblouissants, éclairait le paysage comme la lumière du jour. On pouvait par instant distinguer chaque arbre et chaque branche. Puis retombait la nuit noire. L'écho des montagnes répétait le fracas de l'orage. Les pêcheurs tiraient leurs barques à terre. Hommes et animaux cherchaient à la hâte un refuge. Le ciel versa des torrents de pluie. Où peuvent donc être Rudy et Babette par ce temps affreux ? Se demandait le meunier anxieux. Babette, après avoir crié au secours, gémi, pleuré, n'avait plus de voix, plus de larmes. Elle gisait par terre, agenouillée, la tête dans ses mains, mais ne pouvant prier. « Il est au fond de l'eau, pensait-elle, tout au fond, il ne reviendra plus. Le lac est profond comme un glacier. » Elle se souvint de ce que Rudy lui avait raconté de la mort de sa mère et comment on l'avait, lui, retiré froid comme un cadavre de la crevasse où il était tombé. « La Vierge des Glaces l'a repris, se dit-elle. » Un éclair, éblouissant comme le soleil rayonnant sur un champ de neige, illumina le lac. Babette se leva en sursaut. Elle vit au-dessus de l'eau la Vierge debout, ayant dans son aspect une majesté terrible. À ses pieds était le cœur de Rudy. « Il est à moi !» dit-elle. Et elle disparut. Tout fut replongé dans l'obscurité. « Cruel !» disait Babette. « Pourquoi l'as-tu fait périr la veille du jour qui devait éclairer notre bonheur ?»« Dieu !» reprit-elle. « Illuminez mon esprit et mon cœur. Faites-moi comprendre le mystère de vos desseins. » Et Dieu l'entendit. Il se fit une clarté dans son âme. Elle se souvint du rêve de la nuit précédente et de ce qu'elle avait souhaité dans ce rêve comme étant le suprême bonheur pour Rudy et pour elle-même. « Malheur sur moi » dit-elle. « Le germe du péché était-il donc dans mon cœur ? Ce que j'ai rêvé, était-ce ma destinée ? Et valait-il mieux, en effet, qu'il mourût ?» Ses gémissements redoublèrent. Tout à coup, son cœur brisé, broyé,
tressaillit au souvenir des dernières paroles de Rudy. « La terre ne saurait m'offrir un bonheur plus grand. » Plusieurs années se sont écoulées. Le lac sourit. Les coteaux sont dans toute leur beauté. Les bateaux à vapeur voguent, leurs pavillons flottant au souffle des airs. Les grandes barques, déployant leurs voiles latines, volent sur la nappe d'eau comme des libellules gigantesques. Le chemin de fer dépasse Chillon et remonte la vallée du Rhône. À chaque station descendent les touristes. Ils s'empressent d'ouvrir les guides reliés de rouge et de vert pour y lire ce qu'il y a de curieux à voir. Et ils trouvent dans leurs livres l'histoire des fiancés qui, en 1856, allèrent à la petite île aux Trois Acacias. Le fiancé périt et, le lendemain matin seulement, on entendit de la côte les cris désespérés de la jeune fille. Et le lendemain matin seulement, on entendit de la côte les cris désespérés de la jeune fille. Mais le livre n'en dit pas plus long. Il ne parle pas de la vie retirée que Babette mène auprès de son père, non au moulin. Il a été vendu parce qu'elle ne voulait pas habiter des lieux qui lui rappelaient tant de bonheur anéanti. Ils habitent une jolie maison, non loin de la gare. Elle reste parfois des heures entières à sa fenêtre, regardant par-dessus les châtaigniers les montagnes neigeuses où Rudy chassait. Quand elle voit les cimes des Alpes se colorer des splendides rougeurs du crépuscule, elle songe à leur dernier soir. Souvent, lorsqu'elle est bien triste, bien accablée, il lui semble entendre les filles du soleil chanter et dire comment l'ouragan enlève au voyageur son manteau. Mais est-ce une raison de s'affliger ? Il ne prend que l'enveloppe et non l'homme. Et la lumière se fait dans son âme à la pensée que Dieu dispose de toutes choses pour le mieux. Ne le savait-elle pas mieux que personne depuis son rêve ? Fin 2. La Vierge des Glaciers.